Le Cercle des journalistes de la Lozère.
Le Cercle des journalistes de la Lozère.
Le Cercle des journalistes de la Lozère.
Le Cercle des journalistes de la Lozère, émission spéciale.
Le Cercle des journalistes de la Lozère, émission spéciale.
Émission spéciale, le Cercle des journalistes de la Lozère.
Nous sommes dans les rues de la ville de Mende pour une émission spéciale, une émission en forme de déambulation, en forme de pérégrination, à travers les vitrines de la Mostra de Mende, à la rencontre des artistes qui font cette Mostra de Mende. Rencontre donc.
Alors moi je m'appelle Agnès Ross, je suis artiste, je vis à Sète. J'ai installé mon atelier depuis 10 ans dans un ancien garage à camions dans le centre-ville. Et avant je venais de Paris. Et donc voilà, je me suis installée à Sète pour avoir plus d'espace et pouvoir travailler dans le lieu où je vis.
D'accord. Et donc là, on est devant la première vitrine, la vitrine 27 de la Mostra. On peut savoir comment ça s'intitule d'abord ?
Donc c'est une pièce qui s'intitule « Skate qui sèche » et qui fait partie de la série des objets que j'appelle poétiquement modifiés en fait. Donc je travaille beaucoup à partir d'objets trouvés, soit dans la rue, soit achetés, souvent des objets d'occasion. Et j'ai un petit faible pour les roues, qui me paraissent pouvoir rendre tonique certaines de mes pièces, et du coup faire des espèces de collages et de modifier soit la mobilité, comme c'est le cas là, d'un objet qui appartient quand même à notre quotidien, qui est urbain aussi, qui est un skate que je coupe en deux et où je rajoute deux charnières de chaque côté et qui du coup peut être comme une pièce qui sèche sur un fil d'étendage classique. Donc l'idée là c'est de rompre l'objet qui roule et de l'obliger à se mobiliser en fait, à s'immobiliser pardon.
Vous travaillez l'image, le fait qu'on soit étonné, qu'on a l'impression que ce soit du linge et qu'en fait ce soit des skates. Enfin voilà, il y a ce travail-là.
Ben justement, c'est l'histoire de la série qui s'appelle « Objets poétiquement modifiés ». Donc c'est d'injecter une trouvaille de l'esprit qui modifie la fonction première d'un objet que tout le monde connaît. Donc c'est assez universel aussi. Et c'est de lui insouffler un truc qui fait qu'il y a un décalage, que ça devient une drôle de pièce, à la fois drôle dans le sens où ça fait sourire ou marrer, mais aussi une étrangeté par rapport à ce qu'on sait de l'objet en fait.
Vous travaillez tous les matériaux, là on voit du bois, ou vous travaillez justement que le bois ou quel type
non,
spécifique ?
Je travaille avec tous les objets, donc je peux aussi découper des livres où des images sont prises dans la reliure et me concentrer que sur l'image qui m'intéresse et de découper un livre qui fait 350 pages, donc là c'est cutter. Après, moi j'ai transformé ma chambre en atelier à 14 ans, donc du coup aux anniversaires j'ai eu une perceuse, une scie sauteuse, on m'a acheté une grosse cantine où je refermais tout comme une espèce de boîte à trésors que je ressortais quand le week-end ou pendant les vacances. Et du coup je travaille avec des outils aussi pareil, assez du quotidien quoi, des choses qu'on trouve facilement et les objets c'est un peu ça aussi. Je récupère des bouts de pierre, des bouts d'os, je peux travailler des os de poulet et les transformer par exemple en paresseux. Le squelette d'un paresseux sur une branche avec que des petits os de poulet, donc là c'est plus minutieux que ce truc qui est un peu que cette transformation là qui est assez que tout le monde pourrait faire quoi. Donc c'est un éventail de choses mais assez facile à trouver quoi quand même. Et facile à faire aussi.
Alors ces skates, ils existaient, ils préexistaient avant la Mostra ou ils ont été faits pour ?
Ben en fait c'est une pièce que j'ai... Le premier skate qui sait, je l'ai fait en 2004 et du coup après j'ai continué à en faire parce que je me suis dit qu'un ça suffisait pas et j'en ai cinq, là j'en ai exposé que quatre et ça n'empêche pas qu'un jour si j'ai un lieu d'expo où je peux tendre un câble de 10 mètres j'en mettrai une dizaine de plus et ça c'est facile à trouver aussi, je vais à Emmaüs ou cache un converteur et hop je peux m'en racheter, je l'ai même des neufs, enfin je sais pas s'il y en a des neufs là mais après je les décape pour qu'ils aient une monochromie à peu près identique de bois, avec quand même un peu une petite patine de la couleur d'avant du skate. Et puis,
il reste la couleur des roues.
Voilà, et la couleur des roues, et même le skate vert, là, il a des roues vertes derrière, il en a des jaunes devant, donc je peux aussi, voilà, j'ai toute une banque de données personnelles d'objets dans des caisses, et du coup, je peux aussi réactiver et un jour changer les deux jaunes, les deux roues jaunes pour d'autres roues, enfin bref.
La déformation d'objets, usuels ou non, c'est votre fil rouge ou vous avez d'autres sensibilités dans votre art ?
En fait, le fil rouge, je crois que c'est... C'est une espèce de poésie, mais plasticienne, quoi. Donc, c'est des objets... je travaille vraiment... j'ai peu d'argent de production dans mes pièces. C'est vraiment... j'ai tout un stock. Je pourrais vraiment faire des pièces pendant peut-être 4-5 ans avec tout le stock que j'ai chez moi. Mais je ne peux pas m'empêcher non plus de... tout d'un coup, je trouve une belle pierre sur la plage ou dans la forêt ou un beau bout de bois, je le ramène, quoi.
Alors on va quitter le Cirque de Notre-Dame pour aller vers l'autre vitrine, une de vos autres vitrines. Vous avez envie, racontez-nous où vous allez nous mener.
Alors là, on va aller à la librairie Rénal, l'ancienne librairie Rénal en fait.
D'accord, et vous avez découvert les vitrines récemment, enfin, vous les avez vues et vous êtes dit, cette œuvre-là, elle ira là, enfin, comment ça s'est passé?
Ben, en fait, c'est Laurent Joyeux qui m'a invité. On s'est rencontrés à Montpellier il y a une dizaine d'années et en fait j'ai fait une grosse exposition à 7 avec plein d'objets à la chapelle du quartier haut à l'automne et il est venu voir mon expo et donc du coup ça a réactivé notre relation en fait où on s'était un peu perdu de vue et du coup il m'a invité pour cette biennale. Pour cette Mostra, pardon. Et en fait, il avait choisi, en ayant vu l'expo, où il y avait beaucoup de grues, qui est aussi un de mes objets de prédilection aussi, il avait choisi des vitrines. Donc il y a deux vitrines, Illico Travaux, Jubile Intérim, qui jouent sur la construction, donc il pensait aux grues. Et en fait, il m'a envoyé des photos, mais sur photo, c'est compliqué de se rendre compte. Donc, je suis venue il y a un mois. On a fait tout le trajet. Donc, j'ai checké ce qu'il m'avait proposé. Donc, ça a été validé. Et aussi, sur le chemin, je lui ai dit, mais celle-là, elle est prise ou pas? Il me dit, ben non. OK, donc on a été demandé à la personne. Et donc, du coup, il y a trois vitrines qui se sont raccordées au wagon.
En plus.
Voilà, en les voyant, en fait.
Parce qu'elles vous ont inspiré.
Voilà, exactement. Il y a couteau tabac qui m'a vachement plu avec tous les couteaux. J'ai installé parce que c'est couteau tabac et pêche. Donc, j'ai installé un gros hameçon en fer avec une mâchoire de requin et toute une corde qui pend comme un grand collier avec que des lettres découpées en bois et qui fait ah 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 comme un grand cri à la fois de surprise et de l'animal, quoi.
Alors, donc là, on est rue d'Ecpas et on est au 35 de ces vitrines de la Mostra. Comment elle s'appelle, celle-là?
Cette pièce, elle s'appelle le trésor du chantier, en fait. Donc, c'est une grue de 1m80 qui a été faite maison par mon beau-frère Raymond, qui vit à Sancerre. Donc, c'est une grue qui fait 1m80, qui est assez... en fait, je travaille beaucoup avec les grues depuis plusieurs années. Donc, j'ai des grues miniatures. J'ai aussi racheté une petite flèche d'une grue qui fait quand même 3m50 et près de 250 kg. Et du coup, entre les deux, il me fallait un objet un peu plus... un peu plus conséquent que les grues miniatures trouvées sur eBay et un peu plus petite que cette grosse grue que j'aime beaucoup mais qui fait qu'il faut gérer le transport et il faut au moins 3-4 bras. Voilà. Donc du coup, celle-là, c'est un bon compromis entre les deux. Et donc c'est une pièce ça que j'ai faite en 2007 avec cette vraie grosse grue et qui reprend l'idée des ouvriers qui, le soir, à la fin de leur journée, ou le week-end, treuillent tout le trésor de leur... Dans le trésor, j'appelle ça le trésor, en fait, tous les éléments précieux de leur chantier. Donc, il y a des échelles, il y a les diables, il y a les bétonnières qui sont tout d'un coup montées et ils font un antivol en treuillant à 10 mètres qui est plus accessible aux voleurs. Et donc, moi, je reprends cette idée en faisant treuiller à mon idée de grue, qui est une grue, mais pas une vraie grue, mais en fait, à l'image de la grue. Et je fais treuiller un écran plat qui diffuse une vidéo d'un coucher de soleil, donc qui reprend l'idée que le trésor de notre chantier existentiel sur la planète, c'est le vrai trésor, c'est le soleil en fait. Et en fait, cette pièce, cette grue, elle a été créée pour la Cité des sciences et de l'industrie sur une expo à laquelle j'ai participé, sur la grotte Chauvet. Et donc, c'était cette pièce-là qui était exposée. Et le titre, c'était « On se partage le même soleil ». C'est l'idée qu'il y a 35 000 ans, c'était le même soleil, que c'était quelque chose qui perdure. Et donc, en vis-à-vis de ça, il y a le monde avec un questionnement sur est-ce que va perdurer le monde autant que le soleil, en fait, dans le sens où il y a trois planisphères qui sont encollés sur bois et posés à la verticale comme des objets, comme ça, qui se présentent en quinconce. Et donc, il y a le planisphère du monde avec la population humaine, le même planisphère du monde avec les animaux, représentés sur chaque continent, et un planisphère avec la végétation et les arbres. Et donc... Il faut l'expliquer, mais l'idée, c'est que avec la grue, qui est un outil qui est un bras surpuissant que l'homme a créé, qui, dans le paysage, au loin, paraît très poétique, et puis on s'approche, et en fait, ça devient une espèce comme une espèce d'abus de pouvoir de l'homme sur la nature, qui va bétonner et qui va modifier tous les paysages. Et donc, l'idée des paysages sont repris dans les trois planisphères de la nature animale, végétale, et avec les petits points rouges de la population humaine, qui est liée aussi à l'activité humaine liée à la grue, quoi.
Et ça, c'est en voyant cette vitrine que vous êtes dit, c'est ici que ça a cette place.
Ouais, parce qu'en fait, c'est une vitrine, vous voyez, elle est vraiment vitrée de la tête aux pieds, en fait, pour nous, quoi. Il n'y a pas de cache en bois devant qui vient plutôt à un mètre. Donc là, c'est vraiment un grand espace vitré avec de la profondeur. Et du coup, ça a été tout de suite... Voilà.
Vous venez de dire juste avant, il faut l'expliquer. Là, ça m'a un peu interpellé. Maintenant, pour une production contemporaine, une œuvre d'art contemporaine, il faut obligatoirement qu'il y ait une explication derrière. On ne peut plus avoir de production d'art contemporain sans explication.
Bah, en fait, jusqu'à avant-hier, je ne savais pas si j'allais être là aujourd'hui. Donc, de toute façon, j'étais aussi prête à accepter que les gens voient la pièce. Après, comme la mostra est organisée de façon à ce qu'il y ait quand même un petit texte qui explique. Donc voilà. Après, c'est vrai que on est des plasticiens, on fait des objets. Donc, on n'est pas la maman de l'objet ou le papa de l'objet, et de devoir aussi accompagner les spectateurs pour.
Encore plus ici, j'allais dire, parce que la mostra, c'est justement le but. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des gens qui vont passer devant et qui vont un matin pas la regarder et le lendemain la regarder. Encore plus ici.
Ouais. Ben, en fait, encore plus ici. Et c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, c'est pas un lieu de rendez-vous pour l'art contemporain. Donc les gens tombent dessus. Moi, à Paris, j'ai fait 3 expos dans le métro. En fait, j'ai gagné le concours de poésie de la RATP. Et du coup, j'ai vu le lieu du métro, l'impact que ça avait sur... Les gens qui lisent et encore, je rencontre des gens maintenant qui se rappellent de mon poème, mais qui sont tombés dessus sans aucune raison, sans aller à une lecture de poésie ou je sais pas quoi, ils tombent dessus. Et du coup, j'ai fait 2 autres expos à la suite de ça, parce que je me disais, le métro, c'est un endroit génial aussi. Donc là où il y a des gens, donc la ville, c'est aussi un endroit où le test est d'autant plus fort, puisque les gens sont pas forcément initiés aux arts plastiques.
Et donc, c'est pour ça, c'est aussi pour ça que vous avez dit banco pour cette mostra, en fait ?
Bien sûr, ouais, c'est ça que c'est intéressant de pouvoir aussi expérimenter ce genre de choses et la variété aussi des vitrines, c'est génial. Parce que là, celle-là est vide, mais aussi, j'ai installé dans une qui est complètement avec tous les couteaux, donc ça donne un autre tremplin. Donc là, on est obligé de faire la pièce en accord avec. Voilà ce qu'il y a dedans et tout.
Alors pour finir cette rencontre avec vous, on vous a demandé de choisir une vitrine. Est-ce que vous l'avez choisie ? Vous savez à peu près où elle est dans le territoire mandois ? On peut y aller ?
Ouais, on peut y aller, elle est pas loin en fait.
Et la ville de Mende, alors, vous l'avez découvert ? Vous la connaissiez ?
En fait, j'ai fait une expo au Vallon du Villaret en 2005, dans la tour, là, l'expo de printemps. Donc j'étais passée à Mende, ouais, une seule fois en fait. Donc non, je connaissais pas particulièrement. Et là, ça fait une semaine. Enfin, je suis arrivée mardi, et c'était vraiment chouette de bosser là. En plus, je trouve que la nature est magnifique. Et j'imagine que l'hiver c'est plus triste, mais là, le fait qu'il y ait les pousses vertes fluo qui se mélangent au sapin et tout, c'est absolument magnifique. Il y a des lumières avec le ciel qui est assez chargé et le soleil qui perce, c'est super.
Et vous avez eu, enfin, il y avait beaucoup de vitrines, il n'y a pas eu le moment où vous vous dites je vais les remplir comment, enfin, une page blanche par moment?
Bah non, pas tant que ça en fait, parce que quand même je fais pas mal d'expos, ça fait quand même un bout de temps que le métier rentre de plus en plus quand même. Donc, et puis je commence à avoir un vrai stock que je connais bien, donc je peux vraiment assembler les pièces. Donc non, y a pas, ça m'a pas... En plus, il y avait du temps surtout. Moi, je suis arrivée mardi, là on est samedi, on a vraiment pu... On a même été au Vallon du Villaret faire la balade. Donc on a eu le temps, c'était très bien, c'était pas speed, c'était chouette.
Il y a des gens qui vous ont vu en train d'installer vos œuvres.
En fait,
qui vous ont interpellé ou pas?
Ouais, surtout à la librairie Rénale en fait. J'ai l'impression que c'était vraiment un lieu incarné.
Important de la ville.
Voilà, et du coup, il y a pas mal de femmes qui se sont dit « qu'est-ce qui va se passer ?» Comme si elles avaient envie qu'il se repasse quelque chose d'important.
Ça y est, nous sommes devant la vitrine de l'autre artiste que vous avez choisi. Vous avez choisi qui, alors?
Alors, j'ai choisi Iron Lady de Peter Klaasen, qui est en fait aussi un petit clin d'œil à Laurent Joyeux, qui est le commissaire, parce que je pense que c'est lui qui a choisi l'œuvre, qui a été achetée par le MRAC, je crois, de Sérignan, en fait. Collection du musée régional d'art contemporain du Languedoc-Roussillon à Sérignan. Et en fait, c'est une pièce qui met bien en abîme tout l'esprit de Laurent Joyeux, je trouve. En fait, c'est une paire de seins qui est derrière une grille. Donc ça, c'est l'œuvre. Et Laurent l'a posée sur un socle, du coup, derrière une vitrine du centre-ville de Mende, qui donne le titre Office de commerce et cœur de Lozère. Et du coup, ça, je trouve que c'est juste une spéciale dédicace à Laurent et à son esprit, dans le sens où l'image, elle n'est pas forcément drôle, parce que c'est quand même une paire de seins derrière un grillage. Donc déjà, une paire de seins exposée derrière un grillage, ça peut être assez violent, plus un cadre métallique, un néon qui fait quelque chose d'assez dur. Et après, Laurent le met dans Office de commerce, cœur de Lozère, en vert sapin, vert fluo, rose, avec une grosse rosace en couleur aussi très fun et tout. Du coup, ça remet un peu de ludique dans la pièce. Voilà.
C'est important, cette découverte pour un artiste, de découvrir le travail d'autres, de discuter avec d'autres collègues, même si confrères. Enfin...
Alors découvrir le travail d'autres et discuter avec des collègues, c'est deux choses différentes en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu notre métier d'être initié à regarder les choses. Mais en fait, moi, pendant longtemps, j'adorais voir les œuvres sans rencontrer les artistes. Mais un séjour comme ça, c'est une pure régalade de rencontrer des artistes avec qui il y a des affinités, parce que l'artiste, il est quand même, on en parlait avec Jérémy, assez solitaire dans son boulot, et il y a tellement de différentes façons de gérer son travail d'artiste. On ne rencontre pas toujours les mêmes âmes et les mêmes familles d'affinités, et avec Jérémy, on s'est vraiment super bien rencontrés, on a parlé beaucoup, et c'est assez rare en fait.
Est-ce que justement ça peut amener à des collaborations, à des travaux communs, le fait de pouvoir se rencontrer et pas seulement voir les œuvres?
Bien sûr, ouais, parce qu'en fait on parle de famille, d'affinité profonde, en fait ça marche pas avec tous les artistes, mais quand ça marche, effectivement on repensera chacun à l'autre, c'est sûr, je pense. Hein. Après on verra, et effectivement peut-être avec potentiellement des collaborations à l'avenir, ou en tout cas une continuation de conversation par des mails, des liens, de dire j'ai pensé à toi, regarde ça va peut-être te plaire, ou même de quelqu'un qui cherche un artiste un peu dans la trempe de celui qu'on a rencontré, de dire appelle un tel ou envoie lui un mail, enfin bref, après ça fait des réseaux de famille d'affinité, donc il n'y a pas plus fort en fait.
change d'artiste. On est avec vous maintenant. Le temps qu'on arrive à votre vitrine, vous laissez vous présenter.
Oui, donc moi je m'appelle Jérémy Gobet. Donc je travaille à Paris et j'habite à Pantin. Donc, je suis un jeune plasticien et voilà.
D'accord. Et donc là, vous venez pour la première fois en Lozère, à Mende.
Oui, complètement, oui. C'est d'ailleurs une petite blague parce que tout le monde se dit... Moi, quand je suis arrivé, je me dis je vais aller dans le sud. En fait, c'est pas tout à fait vraiment le sud, mais c'est un peu l'endroit de France le plus au sud où je suis allé. Donc, ouais, je connaissais pas du tout le coin, je connaissais pas l'environnement et c'est une vraie agréable surprise. Ouais. C'est un très beau paysage.
D'accord. Alors, comment on devient plasticien, en fin de compte ? C'est des études d'art qui vous amènent à ça ? C'est un déclic ? C'est quoi ?
En fait, je pense, je veux pas parler au nom de tous les plasticiens du monde, mais il y a, dès le départ, dès tout petit, il y a toujours un truc qui fait qu'on regarde les choses avec plus d'insistance, avec un regard particulier. Et après, on l'écoute plus ou moins tôt. Je sais que moi, ça a pris un petit peu de temps pour que j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait un an d'école d'architecture, jusqu'au moment où j'ai eu mes premiers cours d'histoire de l'art où je me suis dit, bah voilà, c'est ça, il faut que je fasse ça, il faut que je sois dans cet univers-là. Donc après, j'ai bifurqué sur un cursus, oui, plus académique pour devenir artiste. Donc j'ai fait 3 ans de beaux-arts. Et après, je suis arrivé à Paris pour aller aux arts décoratifs.
J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de plasticiens qui sortent préalablement d'études d'architecture. C'est vraiment lié maintenant, cette idée d'architecture et d'art contemporain au niveau des plasticiens.
En fait, pour plus globalement, je pourrais pas dire. Moi, je sais en tout cas ce que ça m'a apporté. Déjà, une ouverture, aussi que ce soit quand on arrive dans ce cursus-là, c'est un vrai choix. C'est pas un choix par défaut, c'est pas carrière à mener, etc. C'est vraiment une vraie passion. Ce qui fait qu'on arrive en entrant dans les études d'art avec une réelle motivation et une force qui nous pousse. Est-ce que l'architecture m'a par contre apporté ? C'est justement, quand on fait de la sculpture, des installations, c'est l'équilibre, les forces, comprendre comment les choses tiennent, comment tout ça tient. C'est ça que ça m'a apporté, ce cursus. Ouais.
On va arriver justement à votre vitrine. Donc, alors, c'est la rue d'Auriac. C'est une vitrine que vous avez choisie ?
Non, en fait, moi j'étais pris entre 2 expositions. Et donc le deal, ça a été vraiment de dire, bah, écoutez, je vous fais confiance, vous connaissez mon boulot, vous savez ce que je peux vous proposer à exposer, et mettez-les où vous pensez que c'est le mieux. Et justement, je trouve que c'est vraiment dans l'esprit de la Mostra, justement, c'est de se dire, là, les gens vont passer devant les vitrines, ils vont s'arrêter ou pas, donc on l'offre au regard des gens. Et là, mon travail, je l'ai offert au regard de Laurent et Dominique en disant, bah voilà, je vous fais confiance, et voir aussi l'interprétation qu'ils peuvent avoir de ce que je peux proposer et d'après eux, où est-ce que ça peut être le mieux.
Et au final, ça vous va, cette vitrine choisie ?
C'est parfait, ouais, c'est vraiment idéal. En fait, donc la vitrine, c'est une petite annexe qui appartient à une association dont le principe est assez proche d'Emmaüs. Moi, je pars beaucoup d'objets récupérés, je vais dans des usines qui ferment, donc c'est toujours des rencontres avec des objets ou des instants de vie qui sont passés, donc des objets passés qui ne sont plus utilisés. Et j'essaie de remettre une nouvelle énergie à l'intérieur, donc c'était vraiment idéal, ouais. C'est un très bel écrin pour moi. Ouais.
Alors justement, décrivez-nous votre œuvre qu'on peut retrouver ici.
Et son nom.
Alors, l'installation, de toute façon, chaque vitrine est un petit morceau d'une installation qui s'appelle Corail Restauration. En fait, pour parler un peu de mon travail en général d'abord, pour présenter un peu ça, quand j'ai commencé, j'ai été curieux de voir autour de moi. Donc quand j'ai commencé mes études d'art, j'étais en Lorraine, il y avait beaucoup d'usines qui fermaient à l'époque, donc j'ai voulu y aller sans présager d'une œuvre ou d'une pièce, et juste de voir ce que c'était cette réalité qui était autour de chez moi. Et j'ai rencontré des gens, des ouvriers qui perdaient leur emploi, ils m'ont confié plein de tissus, donc j'ai commencé à faire des œuvres avec ça. Et depuis, en fait, c'était un peu mon principe de travail, c'est que j'allais dans des endroits, donc des usines qui ferment, voir des artisans qui peuvent pas renouveler leur activité parce qu'ils partent à la retraite et personne prend la suite, aller dans les Emmaüs, dans la rue, récupérer des choses et essayer d'en faire poser des nouvelles questions à partir de ça. Et donc là, l'idée de cette pièce, c'était, je suis allé à Emmaüs et j'ai trouvé un bac de coraux morts à l'intérieur. Et ils étaient tous différents et tous plus beaux les uns que les autres, avec tous des qualités plastiques incroyables. Et chacun m'a fait penser à des matériaux différents et j'ai eu envie de les continuer justement, de faire comme s'ils n'étaient pas morts et de continuer le récif et de faire comme s'ils étaient encore en vie, quoi. Donc pour ce projet-là spécifique, donc là dans cette vitrine en fait vous avez deux coraux, un corail qui ressemble un peu à un gramophone, qui a une forme assez ronde, et un petit corail qui est à l'intérieur. Et en fait on a l'impression que c'est qu'ils vont ensemble, qu'ils sont la même espèce, et pas du tout. En fait ils s'emboîtent parfaitement. Moi là c'est le seul corail où j'ai vraiment eu aucune action directe dessus. Et à partir de ça, je me suis dit, bah voilà, ça marche comme ça. Et j'ai voulu quand même le continuer, donc là, j'ai fait un travail de dessin. Et je suis parti de voir un petit peu, je me suis documenté pour voir quand ces coraux étaient vivants, sous l'eau, comment ils étaient. Et en fait, là, ce qu'on a, c'est une forme fossilisée du corail, mais quand il est sous l'eau, il est vivant. C'est plein de polypes, c'est animé. Et du coup, le petit corail que vous verrez si vous venez voir la vitrine, c'est plein de petites stries, et quand on le voit, il est figé. Alors que sous l'eau, il ondule, il crée des mouvements, et donc j'ai essayé de retranscrire ça en dessin. Donc en fait, il y a toute une étude de dessin, et ça, c'est à la fois pour me faire comprendre aussi les formes, et aussi pour lui redonner un peu de vie. Donc quand on voit les dessins, ce que j'aimerais que les gens voient, c'est justement tous les états du corail quand il est sous l'eau et quand il est soumis aux changements avec les mouvements sous la mer, etc.
J'imagine que dans votre travail, c'est donc un travail de récupération, on va dire, et on réinsuffle un peu de vie. J'imagine que la vitrine vide, c'est ultra inspirant, justement, parce que c'est un peu mort, une vitrine vide. Enfin, c'est la vitrine qui ne vit plus.
C'est ça, c'est exactement ça. Et puis ça tombe à un moment aussi, justement. Donc le projet que je monte, Corail Restauration, pour moi, c'est le début. Et puis là, en fait, j'entame une nouvelle phase dans mon travail. Justement, je retourne voir les gens avec qui j'ai travaillé ou justement, je retourne aussi voir les objets et puis que j'ai pu récupérer. Et j'essaye aussi de remettre cette rencontre au cœur des choses. Et c'est sûr que pour moi, c'est tombé pile poil au moment aussi où je me posais la question de ce que c'est que montrer une œuvre d'art. Il y a forcément le schéma qui vient tout de suite, c'est dans la galerie. Et moi, ça me coupe justement de ces rencontres. Là, j'ai fait le constat de ça aussi. Il faut que je retourne dans les usines, etc. Mais eux sont éloignés de ça. Et quand on va dans une galerie, on a déjà la démarche d'aller voir de l'art. Alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être... Pour moi, personnellement, c'est quand je crée, c'est pour le montrer à n'importe qui, sans culpabilité de se dire, j'ai pas de culture de monde de l'art, de culture historique. Donc c'est d'abord pour ces gens-là que je fais, et après que ce soit récupéré par les galeries et montré dans un autre système, oui, mais c'est plus dans ce système-là que j'aimerais évoluer, c'est plus inversé. Et du coup, là, pouvoir mettre dans une vitrine, aux yeux des gens, c'est idéal. C'est vraiment, c'est tombé pile au moment. En fait, la rencontre que j'ai eue avec Interstice et puis avec la Mestra, c'était au moment dans mon travail où c'était le plus propice. Ouais.
Il y a la problématique de savoir si les gens vont la voir, votre œuvre. Parce que, enfin, j'imagine que ça, est-ce que ça, elle va interpeller? Comment on travaille ça en se disant, on est dans une petite rue là, est-ce qu'ils vont la voir? Comment je fais pour attirer leur regard ou pas? Est-ce que j'ai envie d'attirer leur regard ou au contraire, quelles questions vous êtes posées autour de tout ça?
Je me suis pas forcément posé la question de est-ce qu'ils vont le voir ou pas. C'est sûr que je sais qu'il y a des gens qui vont passer à côté, qui vont pas le voir, etc. Mais ça, c'est le jeu dans n'importe quelle exposition, en fait. Parce que même quand vous êtes montré dans un cadre de galerie, quelqu'un peut passer devant très vite sans s'arrêter. Donc ça, pour moi, c'est pas la problématique, c'est plutôt à qui je la montre, à qui je l'offre. Et je me dis, là, c'est sûr que c'est pas des rues passantes, c'est une petite ville avec un petit centre-ville. Mais si il y a quelques personnes qui passent devant et qui le voient et que ça peut les toucher, pour moi, c'est déjà gagné. Pour moi, c'est pas un problème. Mais par contre, dans l'installation elle-même, ce que vous disiez, c'est vrai que j'ai aussi proposé ce projet-là parce que les coraux, donc je les continue. Et il y a un jeu aussi de mimétisme qui fait que quand on peut passer rapidement, on peut se dire mais c'est juste un corail qui est posé là, alors que la plupart du temps il y a juste un petit morceau de vrai corail qui est continué. Et donc mon jeu, c'est aussi de faire croire aux gens que j'ai pas fait d'intervention, qu'en fait tout ce que j'ai fait est naturel, être le plus proche de la nature. Donc il y a aussi ce petit jeu là qui fait un rappel aussi avec le fait de passer devant sans le voir.
On va aller voir une autre de vos vitrines, où ça vous allez?
Bonne question. Oui, le loisir créatif.
Oui, à tout loisir.
Ah oui, pareil.
D'accord, donc là on se déplace. Sandrine parlait de vitrine morte, vitrine vivante. Dans votre œuvre là, donc il y a également une dualité, une vie-mort entre les dessins qui montrent le dynamisme du corail vivant et le corail mort. Ça, c'est voulu ou c'est un hasard total?
Non, oui, bien sûr. C'est toujours à mettre en parallèle avec l'ensemble de ce que je fais dans mon travail, avec les usines qui ferment, etc. Donc c'est toujours de réinsuffler de la vie à partir de quelque chose qui n'en a plus. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et je suis parti aussi, au tout début de mes études, d'une citation de Rodin qui dit « L'art, c'est pas de faire des choses nouvelles, mais c'est de le continuer. L'art, c'est continuer les choses. » Moi, c'est un peu mon positionnement, c'est de me dire, j'arrive Sur Terre, enfin c'est un gros mot, mais j'arrive ici avec des choses qui sont faites avant moi, avec des objets qui existent. Je suis pas du tout contre le fait d'utiliser de nouveaux matériaux. Par exemple, il y a des coraux que je continue avec des chevilles de chantier, etc. C'est pas le problème, mais c'est plutôt de se dire, il y a des choses autour de moi, soit je les jette, je les balaye, soit j'en fais des nouvelles choses, je pose des nouvelles questions et ça fait une boucle, une continuité. Moi, c'est mon positionnement, donc forcément, voilà, ça se répond et ça correspond. Ouais.
Oui, c'est une question, oui, c'est comment on peut arriver continuellement, quand on est artiste, à continuellement créer de nouvelles choses, avoir de nouvelles idées, explorer de nouveaux thèmes, sachant tout ce qui a été fait au préalable.
En fait, moi, de mettre ce positionnement-là, ça m'a dégagé de tout ça, ça m'a dégagé de ces contraintes-là, dans le sens où je me suis dit, c'est pas en cherchant le nouveau matériau, l'objet le plus high-tech, c'est plutôt de surprendre à chaque fois. Par exemple, ce travail sur les coraux, c'est ce que j'essaye d'appliquer à tous mes travaux, c'est qu'à chaque fois, j'apprends une nouvelle technique. À chaque corail correspondait une matière. Par exemple, j'ai dû apprendre à tricoter, à modeler la terre, à plein de choses comme ça. Du coup, à chaque nouvelle rencontre, je prévois jamais ce que je vais faire. D'abord, je rencontre une technique, je rencontre des gens, et du coup, ce que je produis sera toujours différent. Et pour moi, c'est ça l'innovation. C'est on part d'une base commune et on produit quelque chose de nouveau parce qu'on découvre à chaque fois. En fait, c'est toujours de la découverte. Pour le public aussi, dans les expositions, jamais proposer la même chose. C'est assez rare que je remontre exactement les mêmes objets sans apporter quelque chose. Et aussi, avec moi, d'apprendre des nouvelles techniques, d'être toujours le découvreur de ça.
Alors là, on est devant votre seconde œuvre, rue Chalier-Hugonnet. Même principe ?
Alors là, y a deux éléments dans cette vitrine. Il y en a un, en fait, donc c'est une sculpture. Cette fois-ci, c'est vraiment un corail que j'ai continué. Et donc vous avez un petit morceau de véritable corail. Et tout le reste, en fait, je l'ai continué avec du papier mâché, du grillage, du polystyrène, du sable. Et encore une fois, la proposition de cette vitrine était géniale parce que c'est un magasin de loisirs créatifs où on peut trouver tous ces objets. Et justement, il y a quelque chose de génial là-dedans. Moi, j'aime beaucoup aussi l'idée de pas faire avec des matériaux inaccessibles aux gens, de pas faire avec des techniques inaccessibles. C'est juste que moi, je suis artiste et je donne tout mon temps à ça. Donc forcément, j'arrive à faire des œuvres. Mais par contre, quelqu'un qui aurait le même temps que moi et la même patience pourrait arriver à les faire. Donc il n'y a pas de question de génie, il n'y a pas question de truquiner. C'est des choses qu'on peut tous faire. Et d'arriver à quand même faire quelque chose qui peut surprendre les gens. C'est-à-dire avec un truc qu'on a tous dans notre garage, d'arriver à quelque chose qui peut surprendre par la forme, par la technique, par la patience. Et le deuxième élément de la vitrine, en fait, c'est des dessins. J'ai pas pris de photos des coraux quand je les ai découverts, parce que les photos, j'aime pas tellement ce principe de photo souvenir, parce que généralement, on prend une photo et on les range dans un album, et on se dit, ça c'est là, et du coup, le souvenir, il est plus là, il est emprisonné dans cet album photo. Donc du coup, je dessine. En fait, ça me permet aussi de comprendre les matériaux, les matières. Donc en fait, les dessins que vous verrez dans la vitrine, c'est les dessins des coraux nus, tels que je les ai eus, sans extension. Et donc à chaque fois, il y a une recherche de matière, de matériaux qui me disent, tiens, celui-là, je pourrais le continuer avec tel matériau, etc. Donc c'est vraiment des dessins à la fois de mémoire et à la fois de travail, pour continuer et puis pour voir quel matériau je vais pouvoir adapter à la pièce.
C'est du crayon, de l'encre de Chine, c'est quoi ?
Alors c'est tout au stylo. Je travaille toujours au stylo, d'ailleurs dans la première vitrine aussi, parce que justement j'aime bien le fait que si je fais une erreur, je peux pas l'enlever. Et la nature travaille aussi comme ça, c'est-à-dire que quand quand un récif de corail est confronté à quelque chose, à une barrière, et il y va, il monte par-dessus et il envahit tout. Et moi, c'est un peu la même chose. Si je fais une rayure, et je me dis, c'est pas grave, je vais adapter le dessin pour que la rayure soit un bel accident et que ça s'intègre et que ça continue.
Quand vous trouvez un morceau de corail comme ça, vous savez déjà ce qu'il va devenir ou c'est au fur et à mesure que l'idée germe travaille pour le transformer plus tard ?
En fait, c'est à chaque corail différent. Par exemple, il y a un oursin que j'ai trouvé. Tout de suite, il m'a fait penser à du tricot. Donc là, je savais évidemment que j'allais apprendre à faire du tricot et à continuer. Après, il y en a, c'est plus long. Comme celui de la première vitrine, où là, c'est tellement parfait comme ça que je peux pas faire d'intervention directe. Et là, je me dis, je vais le faire en dessin. Mais là, il y a eu un long cheminement en me disant, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ou il y a des choses qui me posent problème. C'est vraiment au cas par cas. À chaque fois, c'est comme ça.
Avant d'aller voir une vitrine que vous avez choisie d'un autre artiste, on va vous demander votre rapport avec cette ville que vous avez découvert pour venir y travailler, pour venir y poser vos œuvres. Quel regard vous avez eu sur cette ville ?
La première chose qui m'a surpris, c'est le fait d'entendre la radio dans la rue. Ça, j'ai trouvé ça assez fou. C'est qu'au départ, j'étais en train d'accrocher mes boulots et j'entends la radio très fort. Donc je me dis, mais c'est qui ce mec qui écoute la radio? Tout le monde va l'insulter et tout ça. Donc j'attendais le moment où quelqu'un allait sortir de chez lui en gueulant, mais quand est-ce qu'il va éteindre son truc? Et en fait, c'est après, j'ai compris, mais non, il y a la radio partout. Et ça représente assez bien ce que j'ai ressenti dans la démarche de la Memstra, en fait. C'est de se dire... Et c'est aussi ce que j'essaye de faire dans mon boulot, c'est on part d'un constat, ok, il y a des usines qui ferment, ok, il y a des endroits où il y a des centres-villes qui se vident, etc. Et pourtant, eh ben, on peut essayer de faire des choses, quoi. Mettre de la musique, mettre la radio dans la rue, essayer de ces vitrines abandonnées, on y met des artistes. Donc moi, c'est ça que j'ai ressenti. C'est vraiment, il y a des, par exemple, on a été choyé, on nous a emmené au Vallon, et c'est une sorte de petit parc d'attractions avec des œuvres d'art, et ça, c'est des trucs que j'avais jamais vus. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est d'abord l'énergie verte, quoi, la forêt, la végétation, tout ça, et aussi une énergie de se dire on est ensemble, on reste là et on y va, quoi. C'est un vrai choix.
On va justement aller vers la vitrine que vous avez choisie.
Ouais.
Vous savez par où elle est?
C'est une bonne question. En fait, j'ai choisi une vitrine d'Agnès et c'est la vitrine de. C'est du travail intérim, je crois.
Alors, c'est juste par là.
Ouais, venez. Parfait. Parce que justement, l'autre chose que j'ai vue aussi, c'est qu'on se perd très facilement dans des tout petits endroits. Donc ça, c'est une autre constatation.
Alors, on traverse la halle au blé.
Ouais. Alors, en fait, elle est assez proche de la vitrine que je viens de vous décrire, où il y a mon travail. Et justement, j'ai choisi celle d'Agnès aussi, parce que déjà, elles sont proches géographiquement. Et moi, j'ai voulu choisir... D'abord parce que c'est une rencontre humaine. Je voulais pas choisir un travail que j'avais juste découvert comme ça. Et aussi, ça représente ce que pour moi la Memstra devrait donner comme exemple à d'autres expos. Ouais, devrait montrer pour d'autres expos, c'est que c'est d'abord des rencontres. Et là, avec Agnès, on a passé du temps ensemble, on mangeait ensemble.
Vous êtes allé au Vallon, du Vallon.
On est allé au Vallon ensemble. Tout ça, ça a été des rencontres. Donc ça a été une rencontre humaine aussi au niveau du travail, parce que moi j'ai découvert plein de choses chez Agnès qui m'ont beaucoup touché. Et là j'ai choisi cette vitrine-là parce qu'elle fourmille. Il y a énormément d'éléments. Et ce que j'ai découvert de son travail, c'est que c'est ça, c'est une abondance, une générosité en même temps. Et c'est ce qu'on se pose tous comme question, c'est que plus on a de matériel, plus c'est difficile d'en faire une œuvre à partager aux gens. Surtout dans une vitrine, parce qu'on se dit on a tellement de choses, d'envie à partager. Donc là, pour moi, c'est l'équilibre, cette vitrine, entre la masse de matière qu'on peut accumuler et comment on le retranscrit avec une justesse.
Vous me la décrivez, alors? On y arrive, là?
Alors, en fait, moi, ce que j'aime dans cette vitrine, c'est qu'il y a à la fois un travail de sculpture, vraiment, qui se rapproche de la sculpture classique, presque antique, avec vous avez des skateboards avec une grosse pierre de taille ou avec des morceaux de macadam de l'autre côté de la rue. Et on se rend pas compte, mais ce qu'expliquait Agnès, c'est qu'il y a un jeu d'équilibre. C'est qu'il y a un jeu d'équilibre où il faut avoir la bonne dimension de route. Tu me dis, hein, si je dis des bêtises. Il faut avoir la bonne dimension de route pour que la sculpture se tienne et que ça bouge pas avec la chaleur, etc. Donc ça, moi, ce qui me touche, parce qu'avant tout aussi, j'ai une fibre de sculpteur, c'est vraiment que ça appelle à... C'est un truc très moderne, vous avez du goudron sur un skate, et à la fois ça appelle au fondement de la sculpture, des forces, de l'équilibre. Et en parallèle, vous avez aussi des démarches qui sont aussi très modernes. Quand Agnès cherche met le mot grue dans Google, Google Images, et qu'elle a à la fois des animaux, autant d'animaux que de grues en métal, donc il y a quelque chose de très moderne et de très parlant. Mais en même temps, avec tout ce que je sais de son travail, quand elle parle au Laos et tout ça, il y a un truc très primal dedans. Donc c'est tout ce rapport-là qui m'a beaucoup touché dans son travail.
Voilà, on va finir notre tour avec Laurent Joyeux qui s'occupe de la Mostra de Mende. On va rejoindre la maison consulaire, peut-être s'arrêter vite fait sur une œuvre que vous avez choisie.
Que nous avons choisie avec Dominique, oui. On peut commencer, on peut y aller là, tranquillement.
On peut y aller. Alors, est-ce que cette Mostra a réussi à réenchanter poétiquement le quotidien?
Bon, je ne sais pas, oui, au moins symboliquement, de toute façon. Dans tous les cas, c'est important de réenchanter, en tout cas, je ne sais pas si c'est réenchanter le quotidien, mais faire voir ce centre-ville autrement, de donner à voir des œuvres d'art ou des œuvres. Ou... Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent devant les vitrines, qui regardent, qui apprécient, les commerçants, les passants. C'est des petites gouttes d'eau, mais comme dit l'autre, hein, les ailes de papillon déclenchent des orages. Donc je pense que le centre-ville de Mende, qui a un très beau centre-ville, qui a un très beau cœur de ville, mérite cette attention, celle-là comme d'autres. Hein.
Est-ce que vous avez l'impression que justement les gens sont en train de s'approprier cette manifestation, que ce soit les commerçants, les visiteurs aussi, enfin les Mendois?
Très, très franchement, ça serait faire de l'autopromotion. En tout cas, on a eu un très très bel accueil de la plupart des commerçants, voire qui ont voulu, qui nous ont accompagnés, qui souhaitent accueillir des œuvres, qui dans tous les cas les accueillent avec beaucoup de facilité. Les propriétaires de vitrines pour la plupart aussi. Et je pense que sur ce type de manifestation qui met forcément un peu de temps à s'installer, hein. Mais on peut penser que pour une seconde année, ça va quand même relativement vite, puisque certaines personnes nous disent, ça existe depuis plusieurs années, la Mostra. Donc finalement, c'est une bonne logique de projet, ça signifie qu'à un moment... Les manifestations font leur travail. Et donc là, nous sommes par exemple devant le cordonnier Piat.
Voilà la vitrine, l'œuvre d'art que vous avez choisie.
Voilà, une chaussure, une œuvre d'art de présence panchounette qui s'appelle Saint-Moritz, qui est un escarpin Jourdan avec une figurine en plastique. Bah, qui est une œuvre un peu, un humour, hein, présence panchounette. C'est un groupe un peu provocateur dans la mouvance des années 60-68, qui s'est disloqué à la fin des années 90 et qui n'a cessé de remettre en question le marché de l'art, l'art comme canular, le jeu de mots, l'esprit chounette, comme on peut le savoir. Et de fait, ben là, c'est un très bon exemple. On est passé voir Monsieur Pia, on lui a dit, voilà, on a une œuvre d'art à montrer dans votre vitrine, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voyez avec oui, voilà, et ça s'est fait, et voilà. Donc aujourd'hui, on a intégré cette petite pièce. C'est l'exemple de l'accueil que nous font les commerçants. C'est vraiment du. Moi, je savais qu'on avait cette pièce à montrer pour la première fois en région, puisque c'est le Fonds régional d'art contemporain qui l'a montrée et elle n'a jamais été montrée. Je savais qu'on pouvait la sortir et autant la sortir chez un cordonnier. Alors, il y a un peu un côté un peu jeu aussi avec les enfants, où est l'œuvre, où n'est pas l'œuvre. Mais tout à l'heure, on a fait la visite avec guidé avec des enfants. Ils ont tout de suite perçu l'humour, ce qui résonnait, le petit bonhomme et tout ça.
Voilà qu'on se pose la question, est-ce que l'œuvre d'art arrive à se fondre dans les vitrines? Bon, là, on a l'exemple parfait.
Lui, en l'occurrence, c'est un choix esthétique. On peut choisir des œuvres, comme on l'avait eu avec Natacha Le Sueur chez les coiffeurs. Les pièces, effectivement, se peuvent se fondre. On montre des photos chez Monsieur Soto, la caméra, Place Estoupe. Il y a parfois la volonté, avec Dominique Brun, de faire dialoguer la vitrine et l'œuvre. Mais pas n'est pas obligatoirement. Un skate qui sèche d'Agnès, et bon, là c'est quelque chose d'un peu plus, je dirais, conceptuel, avec un cadre, mais là, bon, c'est un clin d'œil.
Alors justement, on va poser à Dominique Brun, on est encore devant la vitrine là. Vous la vivez comment, cette deuxième Mostra? Elle vous plaise, les œuvres qui sont arrivées dans la ville? Elle vous interpelle?
Certaines oui, certaines non. C'est toujours très difficile. Après, c'est vrai que c'est toujours une gageure, puisque c'est la complexité de transposer dans un espace urbain, dans un espace public, des œuvres qui, a priori, sont destinées à des espaces muséaux. Alors, c'est toujours très compliqué, puisqu'on va avoir un cadre qui est la vitrine, on va avoir un espace qui est la rue. Donc, l'accroche du public n'est pas la même. Quand on va dans un musée, on y va à douce manette. Enfin, des fois, il y a la foule pour voir des œuvres. On prend le temps. Les œuvres sont bien désignées clairement. C'est ici qu'il faut regarder. Alors que dans un espace urbain, on passe, on voit, on ne voit pas. Et puis, l'œuvre n'est plus tout à fait la même, puisque, je dirais, il y a tout un travail, bien souvent dans les musées, pour expurger l'œuvre de toute interférence de l'environnement. Alors que là, l'interférence avec l'environnement est une grande partie de l'œuvre. Donc la vitrine peut faire écran, peut être en partie opaque, fait reflet. Et on ne voit jamais une œuvre sans voir de reflet autour. Et ça fait partie du jeu, je dirais, artistique et créatif de la Mostra. Donc c'est vrai que, évidemment, on pourrait dire que les artistes pourraient se sentir un peu insultés ou un peu instrumentalisés. Mais pour nous, il y a un jeu intéressant dans cette intrication, dans cette articulation de l'œuvre dans un contexte particulier. Ce contexte, il marche ou il ne marche pas. Hein. Ce n'est pas toujours facile de le faire marcher, de le faire tourner.
Ça veut dire que le spectateur, le visiteur, il devient lui-même artisan, artiste de cette œuvre.
Il y participe et s'il regarde bien, il verra son reflet dans l'œuvre et l'œuvre intriquée à son reflet. Si on prend une photo, c'est particulièrement spectaculaire et à ce moment-là, en le regardant à tête reposée, on voit très bien qu'on est dans l'œuvre qu'on photographie. C'est un aspect intéressant, un aspect particulier, mais qui fait aussi l'originalité de la Mostra.
On va rejoindre la maison consulaire pour terminer maintenant. Deuxième édition, il y en aura une troisième, c'est quasiment sûr. Est-ce que vous avez, Dominique Brun de l'association Interstice, des désirs déjà pour la troisième édition ?
Pour nous, il y a deux volets. Il y a le côté technique. Hein. C'est vrai que le principe d'une exposition, c'est que le côté technique ne se voit plus du tout. Mais faire un projet comme le lâche-vitrine d'art contemporain, c'est d'une complexité extrême. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus aléatoire que de faire une exposition dans un musée. Dans un musée, on parle, pour faire des anglicismes, de white cube, c'est-à-dire d'avoir un espace carré, rectangulaire, un cube dans lequel on peut tout changer. Les murs sont blancs, on peut les colorer, on peut ne pas les colorer. Tandis que là, on a un espace aléatoire de bout en bout. Et sur tous les volets de la manifestation, il peut y avoir des aléas, il peut y avoir des incertitudes, il peut y avoir des gens qui se désengage. Il peut y avoir des artistes qui n'ont pas du tout en tête ce que c'est qu'une vitrine et ce que va donner leur œuvre, donc ils partent un peu à côté. On a un exemple en fait qui est intéressant, mais c'est donc dans le travail de Jérémy Gobet, il y a un côté très intimiste et qui n'est pas facile à faire passer dans une vitrine. C'est vraiment une gageure. Donc moi, je trouve que ça passe bien, mais ça demande une certaine attention. Voilà. Alors après, le côté technique, c'est de dire ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences et ça pose, s'il faut aller jusqu'au bout, la question des financements. Hein, c'est-à-dire, sur des échanges qu'on voit, évidemment, on a des partenaires qui disent... qui nous ont demandé quel était notre budget et qui lèvent les yeux au ciel quand ils voient la modicité de notre budget. Alors c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué parce que c'est une gageure et que là pour nous se pose la question de faire un bilan en disant tout ce qu'on a fait et puis tout ce qu'on aura fait si on avait vu 4 sous de plus. Et il y aurait eu beaucoup de changements, hein, puisqu'il y a beaucoup de facteurs limitants où c'était le budget qui nous arrêtait. On va parler de ce qu'on voit un peu là, il y a la présence d'artistes, qui sont les résidences ou les colloques d'artistes, hein, c'est-à-dire le fait de réunir plusieurs artistes qui viennent là, qui créent en partie là, qui arrivent avec des œuvres, mais qui arrivent avec une création, et une création qui se fait dans l'échange avec d'autres artistes.
Vous avez entendu le son, ça y est. Notre balade à travers la ville de Mende est terminée. On revient à l'endroit de notre départ, à la maison consulaire. Aussi parce qu'ici, il y a un artiste et une œuvre. C'est la dernière étape de ce voyage radiophonique. Avec l'artiste qui arrive, justement, et qui va nous faire visiter aussi.
C'est une dimension très importante, puisqu'a priori, ce n'était pas notre axe de travail, mais on a travaillé en partenariat avec les scènes croisées, et ce qui a permis un développement très, très intéressant de ce côté-là, et de réinvestir la maison consulaire d'une façon qu'on espère intéressante.
Alors, on va vous demander de nous emmener sur le lieu de l'œuvre, sur le lieu du crime, et puis vous nous dire qui vous êtes.
Alors, je suis Nicolas Fayol.
On y va.
Je travaille avec Bruno Gélin, qui est metteur en scène et photographe, vidéaste, qui a monté un spectacle il y a 10 ans sur Pierre Molinier. On a repris le spectacle et on a fait tout un travail photographique autour de l'œuvre de Pierre Molinier, qui était lui-même photographe. Tout en utilisant un procédé photographique qui était très proche du spectacle, parce que c'est sur des poses très longues qui peuvent durer 3, 4, 5 minutes et qui sont un peu comme déjà une performance en soi. Voilà.
D'accord. Donc ce sont des photos mouvement.
Ouais. C'est vraiment des compositions de corps tiré du fantasme de Pierre Molinier, des jambes et des bas, en fait, quoi. Donc on a vraiment essayé de rendre ça. Et aussi, nous, en fait, de nous approprier ce désir-là qu'il avait pour les jambes des femmes, des hommes. Aussi ce désir de voir un corps pas asexué, mais presque avec plusieurs sexes, en fait. Que ce soit un homme ou une femme, pour lui, c'était l'importance des jambes, en fait, quoi, et du désir. Donc là, il y a autant des hommes que des femmes, mais à chaque fois, c'est assez androgyne.
On vient de faire une balade dans la ville, de vous voir associé à la Mostra. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout simplement ?
Bah, je pense que c'est super de voir déjà une ville qui vit comme ça, par des choses toutes simples, en fait. Ces espaces où les gens passent tous les jours devant sans jamais se re-questionner sur qu'est-ce que c'est qu'une vitrine, finalement. C'est vraiment présenter quelque chose, quoi. Et là, au-delà de présenter quelque chose qu'on vend, c'est de présenter des bouts de personnes, des bouts de désir de personnes. Donc, ouais, ça me plaît vraiment, ce principe-là.
On va aller voir. Je laisse Ludovic conclure avec...
Avec Nicolas Blanc, scène conventionnée de Lozère, des scènes croisées. Donc là, on se situe au niveau de l'exposition qui est rattachée à un spectacle qui est donné à Mende.
Oui, le spectacle s'appelle « Mes jambes, si vous saviez qu'elles fumaient ». Il est proposé par la compagnie La Grande Mêlée et ça s'inscrit pour nous dans le cadre des soirées singulières qui sont développées depuis 2 ans sur l'espace des Anges. Et une soirée singulière, on attache mardi soir un personnage singulier haut en couleur, Pierre Molinier, artiste plasticien, photographe, qui a développé notamment un travail photo sur les jambes, un amoureux des jambes, et qui à travers ce spectacle en fait se raconte à travers le seul entretien qu'il a donné à Pierre Chavreau, journaliste à Radio France, et voilà, où il témoigne à la fois de son parcours, de son œuvre, et il nous raconte aussi ses fantasmes, ses désirs, son regard sur la vie, sur la mort. Voilà, c'est un spectacle à la fois drôle et original autour de cette figure assez singulière de l'art.
C'est important pour les scènes croisées d'être justement associées à cette manifestation, à cette Mostra.
Bah oui, très important parce que voilà tout ce qui est le volet pluridisciplinaire en fait qui est inscrit au cœur de Scène Croisée, qui se développe d'abord sur le spectacle vivant, quand il peut trouver des prolongements en art plastique, c'est vraiment intéressant pour nous, pour le travail de la scène. Et la Mostra est une manifestation naissante sur la ville de Mende, et c'est vrai que voilà, la vocation de Scène Croisée, c'est aussi de venir conforter, enrichir des manifestations qui sont en émergence comme ça. Donc oui, on y prend beaucoup de plaisir, notamment en développant ces ponts entre spectacle vivant et art plastique.
C'est donc la fin de notre émission avec la Mostra de Mende.
Voilà la fin de nos pérégrinations dans la ville de Mende, en espérant que ça vous donne envie de venir découvrir les nombreuses vitrines dans le cadre de cette Mostra.
Voilà, et ces vitrines qui sont donc visibles par tout le monde jusqu'au 26 mai.
Sandrine Morin.
Ludovic Terrol.
Luc Crespon-Larisson.
Le Cercle des journalistes de la Lozère.